la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Namaskar, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices. Dana Yavad, d'être à l'écoute de votre émission littéraire, un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie La Livrerie. Et oui, je place des mots à Indy si j'en ai envie, car c'est la dernière émission de la saison et donc je fais ce que je veux. En plus, c'est le thème de cette émission, la littérature indienne. D'ailleurs, je soupçonne que vous ayez choisi ce thème pour me piéger dans l'annonce compliquée des noms d'auteurs et d'autrices indiens et indiennes. Ruchira Gupta, Amir Abir Mukherjee, Arundhati Roy, Anuradhata Roy, tiens la même famille, Amitav Ghosh, Laurence Gillot. Mais qui peut bien être la chroniqueuse qui m'arnaque pour cette dernière émission? Ah non, mais Laurence Gillot, ah, j'ai compris, elle doit habiter à New Delhi, voyons voir, Laurence Gillot habite à Nancy, mère de deux enfants, blablabla, déjà fait un photomaton de ses pieds, blablabla, aime sauter dans les flaques d'eau, blablabla, aime le cirque et les confettis, non, pas d'Inde. Vivement que l'on trouve dans cette émission celle qui essaye de me piéger. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas Marlène, car elle est sympa. Salut Marlène.
Et oui, toujours, salut.
Salut Pauline, le retour de Pauline.
Salut tout le monde.
Tu reviens en pleine forme?
Tout à fait, en pleine forme.
Clarisse est là également, salut.
Salut.
Tiens, bonjour Valérie.
Najda Kismaïdnom.
Ah non, alors là, c'est complètement mytho, ça ne veut absolument rien dire.
Alors effectivement, je crois que t'avais dit Nasdaq, donc j'ai dit Nasdaq, et puis j'avais un BD à côté qui s'appelait Ismail et les gnomes, donc je dis Nasdaq Kismaïdnom. Ouais.
Mais je pense qu'il y a des auditeurs, auditrices qui sont fait avoir. Sur
absolument, parce qu'en plus j'étais en train de secouer la tête de Dodeline de droite à gauche,
absolument.
À la façon indienne, j'étais hyper, hyper crédible.
Je t'ai quand même à l'œil.
Mais bonjour.
Bonjour Valérie. Allez, dernière émission de l'année sur le thème de l'Inde. Pourquoi l'Inde? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus pourquoi on avait choisi ça.
C'était Clarisse qui nous avait imposé ce thème avec sa wildcard de l'espace.
Ah oui, c'est vrai.
Toujours de bonnes idées, puisqu'elle a un auteur indien qu'elle adore.
Oui, alors...
D'ailleurs, elle a adoré proposer ce thème.
Voilà.
C'était alors, génial.
Comme il y a une nouvelle règle, on va l'expliquer à Pauline, parce qu'elle a la wildcard, ça elle le sait, mais comme elle n'a pas écouté la dernière émission, elle ne sait pas la règle de la wildcard, donc tu peux la sortir quand tu veux. C'est-à-dire quand que je vais dire, Marlène, présente ton livre, et là tu vas dire, bam, wildcard. Ouais. Ok?
Non, je suis incapable de faire
si,
ça.
Si, il faut que ce soit violent.
Ah, si,
ah,
ouais.
Violent.
Ouais.
D'ailleurs, mais moi, je l'ai fait.
Ouais. D'ailleurs, on va l'appeler la violent card.
La violent card.
Allez, Marlène, Gandhi te donne la permission de présenter le livre d'Abir Mukherjee qui s'intitule...
Avec la permission de Gandhi?
Oui, c'est ce que je viens de dire. Gandhi te donne la permission de nous présenter ce livre qui s'appelle...
Avec la permission de Gandhi.
C'est ce qu'il vient de dire.
C'est ça. Du coup, on est dans un polar historique hindou, en Inde, comme vous voulez. Et je ne sais pas, peut-être que vous connaissez déjà, parce qu'en fait, c'est le tome 3 d'une série. On est un petit peu comme les séries françaises de polar qu'il y avait à une certaine époque. On suit un capitaine, et en fait, ce capitaine de police, il est dans plusieurs aventures. Donc en fait, je ne me rappelle plus des tomes. Hein. Le tome 1, c'était l'attaque de Calcutta d'Arjeeling. Le 2, c'était les princes de Sambalpur. Là, c'est le tome 3, et il en a sorti deux autres déjà. Enfin, en tout cas, traduit en français. Voilà. Donc du coup, on suit le capitaine... Super les noms... Windham.
Sam Windham.
Je vais le dire comme ça. Voilà. Donc, c'est un capitaine qui est en proie à une addiction assez importante, l'opium. Voilà.
Ouais.
Qui lui pourrit un petit peu sa vie et sa vie sentimentale. On ne le sait pas trop dans ce tome-là, parce que ce n'est pas ce qui est approfondi. Là, sur ce tome-là, c'est donc... Le prince de Galles, donc de l'époque, c'était Édouard VIII, débarque pour Noël 1921 dans les Indes, et ça s'est réellement passé puisque c'est un polar historique, débarque dans les Indes en plein milieu des émeutes, enfin émeutes. Émeutes qui se veulent pacifistes, qui ont été soulevées par le Mahatma, donc par Gandhi, et donc s'affrontent les colonialistes qui sont toujours là-bas, les agents népalais qui mettent un petit peu leur grain de sel aussi, et les pacifistes hindous qui veulent l'autonomie de l'Inde et voilà, et pouvoir retrouver leur gestion de l'Inde. Alors c'est un beau bazar. Ça c'est le contexte historique. Et là-dedans, dans les premières pages, en fait, le capitaine est réveillé à gros fracas dans un sous-sol où il vient de s'envoyer 3 ou 4 shoots d'opium, je ne sais plus. Enfin voilà, pas mal. Et on le réveille parce qu'il y a une descente de police. Et habituellement, vu qu'il est capitaine, il sait quand il va y avoir des descentes de police. Or là, il n'a pas été mis au courant. Pourquoi ? Et du coup, il se retrouve poursuivi par ses propres collègues. Et il tombe sur le cadavre d'un Chinois qui a été mutilé. On lui a arraché les yeux et on l'a poignardé plusieurs fois.
Bon voilà. Appétit.
C'est classe. Et on attaque là-dessus. Voilà. Et après, du coup, va se jouer. Ben, lui, il va essayer de dénouer l'enquête de pourquoi ce Chinois. Et puis, au final, il va se rendre compte qu'il y en a d'autres, des crimes comme ça. Il pensait que c'était la mafia chinoise qui commençait à s'installer pour le trafic. Mais en fait, bon, peut-être pas forcément. Et tout ça dans « je dois protéger les populations et je dois faire en sorte que le prince de Galles soit bien accueilli sans qu'il y ait des débordements et des émeutes ». Voilà.
Roman policier. Tu as aimé, Marlène ?
Ouais. Ouais. Puis j'adore les polars, donc j'avoue que celui-là, bien. Donc il y en a d'autres que je connais pas, donc je me dis que je vais lire les autres.
Mmh. Alors, c'est un Britannique d'origine indienne. Hein. Sa marque de fabrique, c'est ça, c'est les romans policiers historiques. Mmh. Il a grandi en Écosse, et donc il a publié son premier roman en 2017, L'attaque du Calcutta d'Arjoling, ouais, Rising Man, premier volume d'une série mettant en scène le capitaine Sam Wyndham.
Voilà. Et c'est du coup...
Ça se passe où, tu disais ?
Celui-là se passe à Calcutta.
À Calcutta,
mais
ouais.
Après, selon les livres, ça se passe pas forcément à Calcutta.
D'accord. Il y a un lien, tu penses, entre les histoires ou pas ?
Non, en fait, le lien entre les histoires, il n'y est pas forcément parce que les histoires sont totalement dissociées.
D'accord, c'est
par
juste
contre,
le personnage...
il y est avec les capitaines et les personnages. Ouais. Et là, tu découvres... Voilà, selon les livres, tu découvres plus ou moins la vie du capitaine, la vie d'un... Enfin, voilà, tu apprends un petit peu plus, lui, sur sa vie. Là, on parle très peu de sa, comment on appelle ça, de sa vie sentimentale et tout ça. Mais là, à cause de l'opium, on sait que, avec une dame là qui est présente dans le livre, bon voilà, il y a eu des histoires et elle l'a largué en gros. Et en fait, ça, c'est dans les livres précédents que c'est expliqué, pardon. Voilà.
Ok, merci Marlène. La maison d'édition, c'est qui ?
Folio.
Oui, enfin là c'est le poche, oui c'est Folio, ouais. Folio policier, mais après le grand format, je sais pas.
Ok, merci. Voilà. Valérie fait des signes, je ne comprends absolument rien à ce qui se passe dans cette émission. Tu
absolument pas.
Après.
Non, c'était, je te demandais quel était le nom de l'auteur parce que tu l'as pas signalé, Ludo.
Mais si, j'ai dit Mukherjee.
Abir Mukherjee.
Ouais, c'est ça, j'avais mal compris.
Vraiment, tu veux m'arnaquer. Mais tiens, allez, bim, Valérie. Et toi, comment il s'appelle ton auteur qui a écrit La malédiction de la muscade ?
Ah bah alors là, hyper simple.
Vas-y.
Il s'appelle Amitav Ghosh.
Oui, c'est vrai que c'est pas très dur.
Hyper simple. C'était pas, même trop facile.
Et bien lui, il est né à Calcutta.
Absolument.
Figure-toi.
Ouais, ouais, c'est ça. Et Amitav, tu veux parler de lui ou tu veux qu'on parle de son livre qui est, à mon avis, tout aussi intéressant, voire
vas-y,
plus que sa vie.
Parle de son livre et j'interviendrai.
Donc, La malédiction de la muscade, donc c'est aux éditions Wild Project qui font plus des essais. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'infliger à lire un essai alors que tu n'aimes pas ça ?
Tu n'aimes même pas lire des essais pour l'émission sur les essais.
Absolument, c'est ça. Et j'avais lu des récits, je l'accorde. Et bien, déjà parce que le titre m'avait interpellée. et que c'est une maison d'édition que j'aime particulièrement. Et donc là, on est entre l'essai, le récit documentaire et le roman. Donc là, vraiment, tous les ingrédients sont là pour plaire. Le titre, c'est « La malédiction de la muscade, une contre-histoire de la modernité ». Donc Amitage Gauche nous fait repartir donc début du XVIIe siècle. Donc on est vraiment sur la période des Magellan et compagnie. Et il nous raconte tout ce qui s'est noué sur une toute petite île sur laquelle poussaient énormément de noix de muscade, notamment des espèces de mutineries, et tous les accords commerciaux qui existaient déjà entre les Hollandais et les Chinois. Et tout le film, c'est ça, en fait. Il va y avoir le côté très historique sur comment on a décimé des peuples entiers, des ethnies entières, à cause de la muscade, en fait, pour pouvoir avoir le monopole de la vente de la noix de muscade. Et c'est écrit, drôlement bien écrit, parce qu'on fait des allers-retours entre le passé et le présent, et c'est écrit comme un roman. Donc ça se lit vraiment hyper bien. Je vois Ludo qui fronce les sourcils depuis tout à l'heure. Soit c'est que je t'éblouis, soit c'était pas d'accord avec ce que tu as lu sur Wikipédia.
Si, absolument. D'accord, non, j'ai pas regardé ce qu'il a. J'ai okay. Ce livre spécialement.
Et c'est plutôt bien fait. C'est une période, moi, en plus, que j'aime particulièrement. Là, ces derniers temps, là, j'avais lu Pour nourrir le monde, là, de Yann Lespoux et Les naufragés du Vaguer, là, qui était sur cette période-là, sur les grandes épopées maritimes. Et là, ça vient un peu clore mon cycle, puisqu'on est vraiment sur quelque chose d'historique. Et c'est autour de cette petite noix de muscade qui paraît rien dans nos placards, mais qui, en fait, déjà est un très gros fruit. Et tout le travail qu'il en découle pour l'accueillir, pour la vendre. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et l'avidité aussi de certains hommes de vouloir imposer le commerce avec ces tribus. Et la première phrase qu'il y a dans ce livre, qui est aussi la première phrase du quatrième de couverture, c'est « Que doit-on ressentir lorsqu'on se trouve face à quelqu'un qui nous a clairement fait comprendre qu'il a le pouvoir de mettre fin à notre monde et qu'il a l'intention de le faire ?» C'est quand même une phrase assez, assez puissante. Et on se dit « Non mais attends, juste à cause des noix de muscade ?» Et en fait, oui, ça a déclenché comme une grosse crise au niveau de toutes ces colonies, de toutes ces tribus, mais aussi en termes d'écologie. Parce que pour pouvoir faire vivre cette noix de muscade et en faire un bon commerce, on a décimé, donc je vous rappelle, on est 1600 et des bananes, on a décimé quand même, ravagé tout un tas de cultures, on a mis feu à des îles entières, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai, ça paraît très loin, mais à la fois c'est très récent et ça a été aussi précurseur de plein de choses sur la suite. Donc vraiment, Amitage Gauche sur la malédiction de la muscade, c'est un gros, gros coup de cœur, bien que ce soit un essai.
Merci.
Avec plaisir.
Un de ces thèmes forts, c'est se situe souvent post-colonialisme, donc là c'est avant ou voire en même temps. Il parle souvent également de nostalgie indienne. Parce
peut-être.
Que, oui. Donc ça doit être lié souvent à tout ce qui est relatif aux odeurs, aux aliments. C'est souvent empreint de nostalgie. Écoute, merci, maison d'édition.
Ben, c'est Wild Project. Et c'est, ils font pas mal de livres comme ça, outre que les livres soient très beaux, sur des essais, sur des thèmes plutôt engagés quand même, écologie, féminisme. Enfin, voilà, c'est une très belle maison d'édition.
Ok.
Et c'est, à la lecture aussi, ça demande pas d'avoir déjà des prérequis. C'était un peu ma crainte. Je me suis dit, j'y connais rien à la muscade, j'y connais rien en Inde. Même si j'aime cette période sur le côté récit littéraire et roman d'aventure, je me suis dit, il va me manquer des billes. En fait, tout est très, très clairement détaillé, expliqué. C'est fluide, c'est vraiment bien.
Merci, Yves.
Avec plaisir.
Pauline, Anuradha Roy, toutes ses vies jamais vécues. Anuradha Roy, qui est née également à Calcutta, tiens, en 1967.
En fait, il n'y a que Calcutta en Inde, visiblement.
Ben écoute, ouais, il semble.
Alors, ça ne se passe pas à Calcutta.
Non, mais je vais chercher le lieu. Et il y a toute une partie qui se passe à Bali, enfin, une partie de ce bouquin qui se passe à Bali et l'autre partie en Inde, en fait. C'est un livre... Alors, c'est marrant, quand on regarde les critiques sur Internet, mon ressenti n'est pas du tout le même que ce que j'ai lu. Moi, j'avais préparé une partie de ma critique et j'aime bien aller voir aussi après. Et moi, dans ma tête, c'est un livre sur la liberté, enfin, le besoin de liberté et sur les... ce qu'on dit toujours, hein, la liberté commence là où s'arrête celle des autres. Et ben là, c'est tout à fait ça. En fait, c'est l'histoire d'un enfant. On est dans les années 30. Et ses parents ont besoin de liberté. Sa maman a été mariée, alors pas forcée. Elle a eu de la chance, c'est-à-dire que... elle n'a pas forcément totalement choisi son mari, mais elle n'a pas été forcée à se marier. Elle s'est mariée avec un homme qu'elle a presque choisi. Voilà, mais elle fait partie un peu des chanceuses. Et en fait, le mariage n'était pas quelque chose qui lui fallait parce qu'elle a eu une enfance assez incroyable. Petite, son père l'a abreuvé d'art, l'a abreuvé de danse et de musique. Voilà, elle a découvert plein de choses. En tant que petite indienne, c'est vraiment... hyper original, personne ne vit ça, et donc elle se marie avec cet homme, et a un autre héros qui se fait appeler Mishkin, en référence à l'idiot, voilà, parce qu'il a une espèce de clignement de l'œil un peu qui ne contrôle pas, et ce petit Mishkin grandit entouré de cette mère qui, même si elle s'est mariée un peu par choix, se retrouve enfermée dans un mariage qui lui crée des contraintes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas danser comme elle le voudrait, elle ne peut pas être artiste comme elle le voudrait, elle ne peut pas découvrir le monde comme elle le voudrait. Et son père, qui est professeur d'université et qui se sent étouffé par les colons, par les Anglais. Donc ils ont tous les deux ce besoin de liberté, et lui, il est là, il se retrouve au milieu, jusqu'à ce que sa mère parte. Et en fait, l'histoire commence, il est beaucoup plus vieux. Alors, j'ai beaucoup aimé son histoire d'adulte, c'est-à-dire qu'il est devenu paysagiste, il aime les plantes, il aime croquer les plantes, il aime écrire sur les plantes, il vit avec ses deux chiens, il est un peu... C'est pas vraiment qu'il aime pas les autres. L'autre, c'est qu'il n'en a pas forcément besoin. Il a besoin de ses plantes et de ses chiens. Enfin, c'est un petit papy un peu touchant qu'on aimerait avoir comme voisin et observer du coin de l'œil. Et il reçoit un paquet d'une ancienne voisine et il comprend qu'il va, il va découvrir pourquoi sa mère est partie et qu'est-ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années où elle a disparu puisqu'il ne l'a jamais revue. Et donc voilà, c'est le déclencheur de notre histoire. Alors c'est très lent. C'est une histoire très qui va à un rythme extrêmement... Alors je dis lent, ce serait plutôt doux, une musique douce avec des mouvements légers. Voilà, c'est chaud, ça vous caresse. Il y a pas... Pour moi, il n'y a pas de grand secret dans cette histoire. Alors après, peut-être que je me trompe, mais il me semble comprendre très vite pourquoi la mère s'en va et pourquoi le père s'en va. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ils abandonnent leur enfant, qui se retrouve du coup à grandir avec son grand-père et à se poser des milliers de questions sur pourquoi mes parents sont partis, pourquoi leur liberté était beaucoup plus importante que moi. Voilà, donc c'est une jolie histoire. Qui traverse aussi le temps, parce qu'on va voir la montée du nazisme, il y a plein d'événements historiques qui ont leur importance dans l'histoire, qui l'impactent un peu, et voilà. Donc c'est pas un méga coup de cœur, je vous avoue que le personnage de la maman m'a un peu agacée, elle est très... elle chouine un peu, elle se plaint beaucoup, ça m'agace. Mais par contre, j'ai été très touchée par le héros. Le héros petit et le héros adulte m'ont beaucoup touchée. Voilà, donc je pense que ça peut toucher certains, cette histoire d'enfance et cette histoire de besoin de liberté, et qu'à un moment, on oublie même ce qu'on aime quand on est enfermé. Voilà.
Merci Pauline, tu disais c'est un peu une écriture douce, à défaut d'être lent. Est-ce qu'on peut qualifier la littérature indienne ou pas ? On a des facilités à qualifier la littérature japonaise par exemple, très poétique, très douce. Est-ce qu'il y a un lien dans la littérature indienne ou pas du tout ? Je m'adresse à vous.
Eh ben pour moi la littérature indienne c'est plus ça grouille. Tu vois, c'est un peu le
comme l'Inde.
Dans les rues bombées,
quoi. C'est ça. C'est plus ça, quoi. Et enfin, en tout cas, sur la littérature que moi j'ai lue, c'est plus ça. C'est plus toi, t'es un peu l'opposé.
Oui. Moi, je suis vraiment dans le très calme, dans le quasi religieux.
Mais oui, mais il y a les sadous.
Qui n'est pas du tout. Alors pour le coup, dans mon histoire, c'est une des particularités de la famille, c'est qu'il n'y a aucune religion chez eux, contrairement à beaucoup de foyers.
Oui. Mais c'est doux aussi. Enfin, je dis ça grouille, mais au final, le côté sadou, le côté hindou, tout ça, ils ont quand même des moments très, au contraire, oui, à l'antithèse. Vraiment.
D'accord avec ça, Valérie?
Oui, sur une partie de la littérature, oui, même la littérature pour enfants indienne, elle est douce, hein. elle est toute pastel, toute colorée. Après, moi là, j'ai en tête, parce que je sais de qui Clarisse va parler, donc j'étais en train de me dire, tiens, est-ce que cet auteur-là est doux?
Et donc, il n'inspire pas la douceur.
Non, c'est ça.
Eh bien, c'est pas encore à Clarisse, alors
zut,
vous attendrez.
Je pensais que je t'aidais à faire une transition d'enfer.
Eh bien, non, parce que.
Le tien est doux aussi.
Mais non, parce que ma transition, c'est très simple. J'allais poser une question à Pauline.
D'accord.
J'allais lui demander, connais-tu le lien entre Anuradha Roy et Arundhati Roy?
Ce sont deux sœurs?
Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas en fait quel lien.
Alors, il me semble avoir lu quelque part.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Arundhati, c'est celle qui a fait le discours là?
Absolument. Que je vais présenter tout de suite.
Ah ben tu vois, j'ai fait une transition.
Ouais, t'as vu.
Et c'est très doux comme discours, c'est très très beau.
C'est je ne qualifierais pas ça de doux, mais c'est très beau, oui.
Bah c'est un peu le Martin Luther King.
Ouais, c'est un, non, c'est un peu violent quand même. Bah. Mais je vais en parler. Alors déjà, je vais présenter cet auteur. Je vous dirai pourquoi après. Donc, bon, elle est née en 61 en Inde, elle est écrivaine militante. Alors, elle est connue pour son roman Le Dieu des Petits Riens, qui lui a valu le prix Booker en 97, qui a été cité par le New York Times et le Guardian comme l'un des livres les plus remarquables de l'année. Elle est connue pour son engagement en faveur de l'écologie, des droits humains, de l'altermondialisme, de la réduction des inégalités, de la dignité humaine. Ok. Prenez-en de la graine, mesdames. Selon le New Yorker, elle est considérée comme l'un des 20 auteurs anglo-saxons les plus significatifs du 21e siècle. Eh oui, Pauline, on a les livres et donc les auteurs qu'on mérite. Alors, Arundhati Roy...
J'ai la sœur.
Ah oui, c'est ça. Arundhati Roy, et qui est journaliste par ailleurs, et qui a créé un fanzine, il me semble, ou quelque chose comme ça. Alors, donc, Arundhati Roy est aussi connu pour son activisme pacifiste, ses multiples combats, notamment contre le fondamentalisme hindou. D'ailleurs, en mars 2002, elle est condamnée par la Cour suprême pour avoir dénoncé la décision de justice autorisant la construction d'un barrage sur le Narmada, qui est l'un des 7 fleuves sacrés de l'Inde. Elle est condamnée symboliquement à un jour de prison et à 35 euros, 2000 roupies. En 2004, elle reçoit le prix Ciné de la paix pour son engagement dans des campagnes sociales, son appui au pacifisme. En 2005, elle participa au tribunal mondial sur l'Irak, etc., etc. Alors pourquoi je vous parle de sa vie avant de vous parler de ce livre qui s'intitule « Aucun d'entre vous ne peut prétendre qu'il ne savait pas », car il s'agit ici d'un discours qu'elle a prononcé lors de la remise du prix européen de l'essai 2023. Alors elle commence son discours en disant « Ce qui me comble le plus, c'est qu'il s'agit d'un prix remis pour la littérature, pas pour la paix, pour la culture ou la liberté culturelle, mais pour la littérature ». Pour l'écriture, celle du genre d'essais que j'écris et que j'ai écrit au cours des 25 dernières années, ils ont retracé étape par étape la descente de l'Inde, bien que certains y voient une ascension, vers le majoritarisme d'abord, puis le fascisme pur et dur. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et ce livre est sorti juste avant les élections indiennes qui ont eu lieu en 2024 pour la troisième réélection de Modi. Et donc, elle va nous donner sa vision de l'Inde actuelle en relisant des passages de ses essais ou en racontant tout simplement ce qu'elle a vécu. Et en fait, en écoutant ce discours avant d'aller voter, personne ne peut ignorer quel homme est maudit, quelle est sa sphère d'amis et ce qu'ils ont fait. Donc d'après elle, l'Inde n'est plus une démocratie depuis que Modi est devenu Premier ministre. Alors donc elle raconte un peu tout, au-delà de ce qu'elle raconte dans ses essais qu'elle lit, elle raconte le copinage avec ses amis multimilliardaires, qui est proche de lui, voilà, qui gagne beaucoup d'argent pendant que la population devient de plus en plus pauvre. On est dans ce pays comme dans bien d'autres pays. On ne va pas les citer, mais on le voit dans bien d'autres pays. Il laisse faire les ultranationalistes hindous qui lui apportent leur soutien à sa réélection chaque année, qui massacrent des minorités, alors d'abord musulmanes en priorité, et chrétiennes aussi, qui se font ensuite gracier par Modi. Ils reviennent en héros, on leur met des colliers de fleurs alors qu'ils ont violé, ils ont massacré, ils ont démembré des musulmans auparavant. Enfin, et donc ça, le détail, donc c'est un peu violent. Donc la douceur, là, Valérie, pas trop. Hein. C'est pas trop ça. Je vous passe le taille des faits, c'est un peu atroce. Voilà, et en fait, elle dit ce qui se passe en Inde, elle dit c'est du fascisme, nous sommes devenus des nazis. Et elle termine en disant si Modi gagne en 2024, toute possibilité de dissidence disparaîtra. Voilà, c'est fait, il a gagné. Alors, il a gagné moins de voix que les autres années, mais bon, c'est oui, quand même fini. Voilà, avec l'appui, bien sûr, des médias d'État, on le sait. Voilà, on ferme les autres médias. Et en même temps, nous, en tant que Français, on va lui dérouler le tapis rouge. Au 14 juillet dernier, il était là. On y va aussi. Tous les pays occidentaux, ils vont sans rien dire et en fermant, bien sûr, les yeux. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est très poignant, c'est un peu glacial, alarmant, et c'est surtout très courageux, parce que voilà, un discours comme ça, ça va pas, ils vont pas être ravis. Hein.
Surtout venant d'une femme.
Et en plus,
parce que les femmes n'ont pas trop voix au chapitre normalement.
Non, c'est sûr. D'ailleurs, tu parleras aussi d'un livre après. Ouais. on va y venir après. Voilà. Et donc, c'est un discours. C'est chez du monde entier. C'est chez Gallimard. Voilà.
Je t'ai mis le plus petit. Hein. Enfin,
Non, mais c'était très bien. C'était très intéressant.
C'était plutôt bien, tu vois, parce que.
Ouais. Peu importe la longueur, hein, c'est la qualité qui importe.
Absolument,
hein.
Mais là tu avais les deux, donc.
Ok, Clarisse, un auteur engagé aussi, Salman Rushdie pour Grimus.
Je suis prête à rebondir et à lui griffer le visage là.
Oui, c'est clair.
D'ailleurs, toi aussi, tu voulais en parler
de deux, mais en fait, je viens
à présenter le mien aussi si tu veux.
Je viens de défendre Salman Rushdie.
Vas-y.
Tu veux que je te coupe, Clarisse? Vas-y, ouais. Mais je t'en prie.
Ah non, moi je suis coupé. Allez. Bon, pause musicale et on revient après et on va voir ce qu'on fait parce que là c'est du n'importe quoi. Allez.
Agni Mangalam, Vayu Mangalam, Gagana Mangalam, Gagana Mangalam.
Allez, on est de retour après cette belle musique indienne. Donc, alors, on en est où ? On parlait de Salman Rushdie, c'est ça ? Tu as le droit de ne pas réussir à rentrer dans les livres, Clarisse. C'était compliqué ?
Très compliqué, oui. Mm. Bon, sur les 500, presque 500 pages, j'en ai quand même lu 137.
C'est au moins, c'est précis.
Voilà. Je vous dis, j'ai retenu.
Elle les a comptés.
Voilà. Mais non, clairement, celui-là, c'était pas pour moi du tout. Donc le titre c'est Grimus, du coup si je le prononce bien.
Je le prononce bien.
Et donc.
Ah, c'est pas de la new romance là.
Non, pas du tout. Mais bon, alors je sais même pas trop comment expliquer l'histoire. Mais en fait, si vous voulez, on commence dès le début sur l'île de Vaud, du coup. Et donc on va rencontrer les deux premiers protagonistes, donc Virgile et Dolores, qui auront eux un rôle plus tard. Et ensuite, on enchaîne directement sur l'histoire d'un homme qu'on appellera l'Aigle Errant. Et donc de là, on va en apprendre un peu plus sur lui, comment il en est devenu à être immortel. Et ensuite, comment il est arrivé, lui, sur l'île de Vaud et pourquoi. Voilà, après... Bon, moi, ça l'a pas fait du tout, parce qu'il y avait à un moment une histoire de dimensions parallèles, de trucs comme ça. Moi, ça m'a perdu direct. J'ai franchement, moi, j'aime bien les trucs simples. Là, c'était...
Tu l'as lu, Valérie ?
Non. Moi, celui que je voulais présenter, c'était Quichotte. Mais du coup, comme elle a pas aimé Grinus, je me suis dit que j'allais parler des versets sataniques, le livre qui a tout déclenché, en fait.
Oui,
mais qui a le lien, parce que dans Grimus, t'as Virgile, comme le Virgile de l'enfer de Dante, qui a accompagné après Dante dans tous ses cercles.
Bah là, il y a une question justement où Virgile, il accompagne l'Aigle Errant pour sa quête, du
c'est
coup,
ça.
Parce qu'en fait, il est devenu immortel, mais il cherche...
J'avais pas la référence, Clarisse.
Il cherche à redevenir mortel, du coup. Mm-hmm.
Et, oui.
Et donc, bon, bah voilà, il y a toute cette question de quête, etc. Alors, je comprends ce qui peut plaire dans ce livre, toute cette question d'aventure, de reconquête de soi, etc. Donc ça, je peux l'entendre, mais c'est bon, moi ça l'a pas fait, quoi. Voilà.
Ça arrive, c'est bien.
Ça peut arriver, et c'est ton droit le plus fondamental. Voilà.
Oui. Okay.
Mais Salman Rushdie quand même pour.
Parce non mais quel livre tu voulais parler
Peu importe. J'ai même le Magicien d'Oz écrit par Salman Rushdie. Enfin, c'est oui, absolument. Et non, mais c'est quand même, alors outre, je pense qu'il a connu, c'est affreux ce que je vais dire, je prends des pincettes pour tout ce qui va venir de maintenant jusqu'à la fin de mon monologue, mais je pense qu'il a bénéficié finalement de ce qui lui est arrivé, donc il a eu une fatwa contre lui, une vraie fatwa, Ludovic, pas juste une petite menace téléphonique, suite donc à la sortie des versets sataniques. Et suite à cette fatwa, donc il a vraiment été agressé, je ne sais plus en quelle année c'était, c'était en 2000 ans, 2002 ?
La dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps. Hein.
Oui, c'est ça.
Enfin, non, c'était il n'y a pas longtemps.
Aux États-Unis, là, c'était... Ben, non, 2002, c'était il y a
3 ans.
C'est pas vieux.
Non, mais il y a eu couteau, il y en a eu une très, très récente. Là,
il y en a une très récente.
2 ans.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais...
Et donc,
on est en 2024, on n'est pas en 2004.
J'ai dit non, je pensais 2020. Oui, mais 2022.
T'as dit 2001.
Ah, 2020. Pardon, 2020.
C'est voilà. Tu vois le monde parallèle. On est en 2004, Clarisse.
Je m'épuise.
On est en 2004, Clarisse. Tu passes ton brevet demain. Sois prête.
Elle n'a qui
Même pas, parce que 2004, j'ai 3 ans.
Mais tu peux être en avance. Hein. Ça arrive.
C'est ça.
Tu peux passer ton brevet à 3 ans.
Donc voilà, quand il a eu, suite à la sortie des versets sataniques, qui effectivement, si on le lit de façon très puriste, peut choquer, mais si on le lit avec juste des yeux de lecteur et... Je cherche mes mots pour pas
un
avoir
peu de recul.
Oui, pour foi ces personnes. Mais ouais. si on cherche pas des poils sur les œufs, on le lit. Comme on va lire Bulgakov, enfin les auteurs russes, on va se marrer. Moi, je lis les versets sataniques, je me marre parce que l'histoire elle est cocasse. Enfin, ça démarre. Je sais pas si vous vous rappelez, ça démarre. Il y a cet avion qui a un accident d'avion. L'avion il plonge de plus de 10 000 mètres et il y a deux mecs qui s'en sortent. Ils n'ont ni parachute ni rien. Donc déjà rien que ça, c'est... Donc, il y a une sorte de... Je ne peux pas dire le mot triangulaire, ça fait appel à trop de trucs, mais il y a une sorte d'histoire qui se passe entre l'Inde... Enfin, entre trois pays dans l'Angleterre. Voilà, donc là, il s'échoue sur l'Angleterre. Je crois qu'il neige. Il fait un temps. Dégaine ta wildcard si t'as besoin. Hein, et on coupe. Hein. Non, voilà. Enfin, c'est deux personnes. C'est pareil. Il y a beaucoup de mythologie dans le. Il y a des liens mythologiques. Alors, je ne sais plus du tout comment il s'appelle dans les versets sataniques. Je voulais le rechercher, mais je ne me rappelle plus. Ces deux personnages qui sont tous les deux très différents, donc tu as un peu le démon, là c'était un espèce d'acteur un peu bizarre, et un autre beaucoup plus posé. Enfin, il y a des dualités qui se font, et puis il y a des pendant la chute de cet avion, ils se mettent à penser, parce qu'ils ont le temps, c'est très long, 10 000 mètres en chute libre, et ils se mettent aussi à repenser le monde, à reparler de l'évolution de la religion, et c'est à partir de ce moment-là où il a eu donc des soucis voilà, où là il y a une fatwa sur lui, mais il écrit, si on enlève ça, ce côté où il s'en entre guillemets prend à la religion, c'est très drôle, quoi. C'est très drôle, et je pense que il faut le lire avec des yeux de premier degré, justement de second degré, et l'accepter tel que c'est écrit, c'est-à-dire quelqu'un de drôle, mais à la fois qui va toujours avoir des références dans les versets sataniques sur la mythologie ou autre, dans Grimus pareil, quand tu vois Virgile, moi de suite, voilà, j'ai de suite, je pense à Dante, il accompagne quelqu'un comme Virgile avec Dante Alighieri, enfin c'est tout ça. Et j'aimais Salman Rushdie jusqu'il n'y a pas longtemps, ses écrits. Autant je suis admirative de l'homme, mais autant sur ses écrits, là, sur les deux derniers, notamment sur le couteau là, qui est sorti il y a quelques semaines chez Gallimard, alors qui est très bien. Hein, je pense qu'il avait besoin de l'écrire aussi pour passer à autre chose, certainement, puis pour décrire. Et là, dans le couteau, on n'est plus du tout dans le Grimus un peu fadasson, un peu fantaisie, parce qu'il y a de ça aussi. On est très loin des versets sataniques ou d'autres livres, ou Quichotte ou autre, où il y avait des références littéraires ou du roman, de la fantaisie. Là, on est vraiment sur sa biographie, son autobiographie, et il raconte pourquoi la fatwa, qu'est-ce qui s'est passé, son agression donc aux États-Unis. Enfin, tout est détaillé, tout est, et du coup c'est
très documentaire, c'est
trop, voilà, pour du Salman Rushdie, du coup c'est trop, mais en même temps c'était très certainement nécessaire, mais ça nécessitait même pas ce format là tout ça, et ça m'a un peu déçue, parce qu'il venait quand même d'en sortir un il y a quelques mois. Voilà, c'est un peu le c'est pour boucler la boucle, pour être d'accord avec Clarisse que quand même Salman Rushdie voilà.
Non, mais après je dis pas que c'est enfin les livres peuvent plaire, c'est sûr, mais après moi c'est bon, voilà, ça a pas marché, mais après je comprends ce côté justement fantasy, parce que là on est vraiment sur le fait que Virgile guide du coup l'aigle errant pour qui retrouve sa sœur, et donc la personne qui lui a donné cette potion d'immortalité, pardon, et donc ils doivent monter au sommet du pic, du coup, sauf que justement il y a cette question de dimension parallèle, parce qu'à un moment il va avoir des visions, etc. Il y a une espèce de créature qui vient pour essayer de mettre des contraintes à leur trajet, donc moi c'est ce truc là qui m'a vite perdu, parce que j'ai dit la créature elle sort de nulle part, j'ai rien compris de ce qu'elle faisait, en fait.
Enfin, c'est une créature, elle fait ce qu'elle veut.
Donc bon, après moi ça l'a pas fait, mais je comprends ce qui peut plaire aussi dans ces romans, donc voilà. Faut terminer sur notre positif quand même.
Absolument. Très bien, mais on va s'arrêter
non,
sur
mais
ça.
Après c'est chouette, parce que t'avais dans ton malheur, t'avais déjà eu droit à un livre sur l'Inde. Ta dernière Wildcard, voilà.
Elle avait choisi un seul qui avait choisi sa Wildcard.
Oui, mais alors attends, parce qu'elle avait choisi celui-là et Salman Rushdie. Ce jour-là, le jour où elle est venue choisir,
j'avais pris les deux.
Elle avait pris
les
deux.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Et en fait, j'avais lu celui de Bulbule. Je suis désolée, non, il me fait trop rire, mais parce qu'il était plus court. Alors au niveau des délais, je me dis bon, allez, je lis le court et l'autre, je le lirai pour la fois d'après.
Ah, t'es comme ça, toi.
Mais en fait, oui, je suis comme ça, mais je l'assume. Ah, voilà.
Je comprends pas, moi.
Mais bon,
les gens
là, du coup, j'ai lu 137 pages. Il était encore plus court, du coup.
Voilà. Oui, c'est ça.
Bon, moi, je vais vous interrompre, parce que sinon, je sais pas du tout où je vais me caler entre Salman Rushdie, le couteau, les horreurs qui se passent en Inde en ce moment, les policiers qui se shootent à l'opium. Donc,
je rêve où tu dégaines ta wild card.
Ben, oui, mais d'habitude, on trouve très facilement des liens entre...
Jingle.
Les...
Ouais, on avait pas un jingle. Wild
card. Pauline.
Ouais, c'est marrant parce qu'on trouve toujours des liens entre toutes nos lectures. Et là, pour le coup, je n'en vois pas venir. Alors, je me dis, allez, j'y vais. D'autant que moi, j'ai envie de parler d'un truc sympa, d'un truc un peu drôle, de trucs. Voilà, de ces. C'est une série de bouquins dont je vais vous parler qui a été écrite, photographiée, mise en scène par une artiste que j'adore et qui s'appelle Sophie Kahl. Alors, Sophie Kahl, pour vous décrire son art. C'est de l'art de l'intime. Elle fait, c'est plastique, beaucoup de photos, beaucoup de photos, mais elle écrit aussi. Et elle rentre dans l'intimité des gens, dans son intimité à elle personnelle énormément, et dans celle d'inconnus. Et enfin, moi j'adore ce truc. Elle va faire elle va étudier des images de caméras surveillance dans des, comment là, on retire de l'argent. Enfin, elle a des démarches assez rigolotes quand on aime l'intime. Elle a ce travail un peu d'enquêtrice que personne n'ose faire, mais que tout le monde a toujours envie de faire. Tiens, il va où ce monsieur? J'aimerais bien le suivre pour savoir ce qu'il fait. Enfin bref, et ben elle le fait. Et donc, un jour, elle fait une enquête, elle tombe sur un carnet d'adresses et elle décide d'appeler tous les gens de ce carnet d'adresses pour essayer de faire le portrait de l'homme dont elle a trouvé le carnet d'adresses. Et elle publie ce portrait. Bon, le gars l'a très mal pris, visiblement, soit dit en passant. Mais elle n'a jamais dévoilé son identité, mais lui s'est retrouvé, évidemment. Et là, et c'est pour ça que c'était un livre dont je voulais parler il y a quelques temps, Paul Auster lit ce... lit ce portrait pendant qu'il est en train d'écrire le Léviathan, et donc il va, parmi ses personnages, créer un personnage assez secondaire dans mes souvenirs, qui est inspiré de Sophie Kahl. Donc il va faire ce genre de choses, suivre des inconnus dans la rue, etc. Et puis il va lui créer des petites habitudes de son imagination à lui. Et là, Sophie Kahl rebond, ils sont fantastiques tous les deux quand même, et va décider, mais moi, je vais faire ce que Paul Auster a imaginé pour moi. Donc, elle va faire des choses genre manger rose pendant toute une semaine. Donc, elle ne se fait que des plats roses et elle les prend en photo, elle explique. Enfin, c'est ça, hein, c'est les bouquins donc, dont je vous parle. Hein, elle prend en photo ses plats, donc tout rose, tout bleu, tout vert. Voilà, elle va... Alors, il y a aussi des habitudes à elle. Hein, par exemple, pendant des années... elle a fêté son anniversaire avec un nombre d'invités qui correspond à son âge et elle va garder tous les cadeaux dans une armoire, faire une photo et donc dans un de ses bouquins, elle va mettre des photos et faire la liste de tous ces cadeaux qu'elle a. Il y a toujours sa maman qui lui offre un truc de chez Darty et donc c'est toujours symbolisé par le contrat de confiance de chez Darty. Enfin, c'est fantastique, c'est vraiment extra. Et donc, elle va même aller plus loin et demander à Paul Auster d'imaginer des nouvelles activités pour elle. Et donc, il lui dit, bah, écoute, essaye de faire la vie plus belle à New York. Essaye de... Alors, je ne sais plus ce que c'est, trois conseils. Bref, il lui donne trois conseils. Et donc là, elle décide de s'installer dans une cabine téléphonique, de la rendre jolie et de regarder tout ce qui s'y passe. Alors, elle fournit des choses parce qu'elle voit toujours... C'est à l'époque où les gens utilisaient régulièrement les cabines téléphoniques. Elle met un cendrier pour le fumeur, un paquet de chewing-gum pour celles qui mangent toujours des chewing-gum. Et elle les observe et elle nous raconte ça. Donc voilà, c'est toute une série de bouquins qui s'appelle Double Jeu. Il doit y en avoir 7. Et enfin, moi, je les lis. Bon, certains plus que d'autres. Il y en a, moi, qui me plaisent particulièrement. Mais tu les réouvres au hasard. Tu lis des passages. Celui où elle s'est fait embaucher en tant que femme de ménage dans un hôtel. Et elle fouille dans les poubelles. Elle fouille dans les affaires. Et elle imagine la vie des gens. Enfin, vraiment, c'est assez surprenant. Et t'as toujours l'impression qu'elle va trop loin. Mais en fait, elle ne te dévoile rien sur... Personne, peut-être que les gens eux-mêmes se reconnaissent, mais sinon, voilà, toi, tu es dans l'intime que tu ne verras jamais. C'est-à-dire que l'intimité des gens, tu ne la connais pas, et du coup, elle y va. Et j'adore. Donc, c'est extra.
Que Sophie Kahl, j'aurais bien aimé faire sa biographie, du coup.
Ah oui, ah bah elle est fantastique. Tu vois. Elle fait des performances, une fois, donc c'était à Avignon. Elle organisait une expo dans un hôtel d'objets... Donc, d'objets importants dans sa vie. Donc, l'hôtel, déjà un peu art déco, un style super sympa. Et parmi les objets, il y avait Sophie Kahl elle-même sur un lit avec une petite étiquette. Donc, la surprise à la fin de ta visite de l'exposition, il y avait Sophie Calle sur son lit avec sa petite étiquette. Elle fait ce
c'est génial.
C'est extra. Ouais.
Et elle vit à New York ?
Oui, je pense qu'elle vit encore à New York, oui. Elle expose dans des lieux particuliers, au musée de la chasse à Paris. Elle va mettre des photos. À découvrir. Ceux qui ne connaissent pas.
Quelqu'un connaissait
assez
Clarisse, tu connaissais ?
Non, je ne connaissais pas du tout.
Moi, Sophie Calle, oui.
Tu connaissais ?
Oui. Sauf que ça, elle avait un panne en main, elle a eu une petite passion pour les pigeons qui a fait que je me suis désintéressée.
Les pigeons, je ne connais pas sa période.
Il y a un de ses livres, c'est clair, la couverture, c'est un pigeon.
Voilà. Pour les voitures aussi.
Pardon ?
Pour les voitures aussi, elle a une passion.
De Calais ?
Sophie Calle, en voiture.
T'es tellement prévisible.
Je sais. En tout cas, tu as un peu mis du baume au cœur dans cette émission, Pauline.
Je me suis dit qu'il était temps.
Te remercie.
Ça me fait penser à une série de Virginie Grimaldi qu'elle a écrite, là, qui s'appelle Chère Mamie, où c'est plusieurs petits recueils où justement elle met des photos. Moi, j'ai lu... c'était Chère Mamie, justement, et en fait, c'était des photos et des cartes postales de ses vacances où elle détaillait vraiment en fait, son quotidien et tout. Il y a même des moments où elle dit « Ah, bah devine encore qui a perdu son maillot ». Enfin, c'est que des trucs...
Des choses sans importance, mais qui finalement
De la vie de la vie courante, mais qui sont en fait super rigolotes et qui rythment vraiment tout le livre. Et ça me fait penser à ça.
Oui.
Voilà, faudra faire une émission positive. Avec que des textes comme ça. Mais on va continuer. Il y a plein d'autres livres positifs, Marlène.
Ah oui, super positif.
Il est
positif, oui.
Ouais. Joie de vivre, belles histoires. Rushira Gupta, Girls Bazaar, une activiste indo-américaine.
Ouais. J'ai adoré.
Ah.
Mais c'est dur. Mais j'ai adoré. Non, alors on est vraiment dans les histoires de caste, les histoires d'interdiction justement aux femmes de faire ce qu'elles veulent et même de disposer de leur corps. Donc là, on est... du coup, c'est la petite Ira, alors je sais pas si ça se dit Ira ou Ira, qui fait partie de la caste des Nats. Les Nats en Inde ont été... Donc c'était des... Je vais les comparer un peu aux saltimbanques, pardon. C'est-à-dire qu'ils voyageaient partout. Ils faisaient beaucoup de fil, d'équilibre. Ils vivaient un peu de ça, en fait, on va dire. Et ils ont été interdits, ils ont été massacrés aussi, bien entendu. Et donc, ils ont été obligés d'arrêter absolument tout ce qu'ils faisaient. Et ils se retrouvent bien souvent dans les bidonvilles des grandes villes d'Inde. Une bonne partie de ces familles-là se retrouvent à vendre leur fille aînée pour gagner un peu d'argent. Et donc, en fait, ils les vendent lors d'une fête, je ne sais plus comment ça s'appelle, lors d'une fête où, en fait, c'est une espèce de... Alors, ça essaye d'être caché par les autorités, c'est-à-dire que tout le monde le sait, tout le monde le vit, tout le monde y participe, enfin, tous les hommes, en tout cas, riches. Et en fait, ils vont dans ces espèces de bidonvilles, là, lors d'une fête qui s'appelle je ne sais plus comment. Et en fait, ils disent qu'ils vont marier les filles à un bananier. Et en fait, elles sont montrées sur scène, elles doivent danser, et elles sont achetées par le plus offrant, et après, elles sont vendues dans des bordels, et toute leur vie, elles vont devoir payer pour... Elles sont obligées de coucher avec plein d'hommes. Et certaines sont même envoyées dans le trafic d'êtres humains en Amérique. Donc ce livre, il parle de ça. Et en fait,
t'avais pas dit que c'était positif. Ouais,
non, mais attends. Quelqu'un d'autre. Attends. Et en fait, cette petite Ira...
Non, mais c'est une horreur. Hein,
non, non, mais
oh là là.
Décor.
Et c'est pour adolescents.
Attendez. Mais oui. Et cette petite Ira, elle dit, ben non. Moi, je suis une natte. Moi, je veux pas. Ma famille, c'était donc ils étaient saltimbanques, ils étaient lutteurs, ils faisaient aussi des petits combats et tout ça, mais la lutte là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc un peu particulier. Je descends d'une famille où on avait des valeurs, on savait faire des choses. Je suis une fille, d'accord, je ne veux pas. Donc elle va se battre, elle va combattre son père quand même, qui veut, voilà, enfin combattre. Elle va essayer de le voilà, de le convaincre. Son grand frère, par contre, lui, il veut la protéger et il est à fond avec elle en disant « Ok, on va essayer ». Voilà. Et en fait, il se trouve que elle est renvoyée de son collège parce qu'elle s'est battue avec un garçon, parce qu'elle s'est pas laissée faire, zut et flûte, quoi. Et donc là, c'est la catastrophe, parce que c'est le seul repas qu'elle faisait, c'était en étant au collège à midi. Donc on est, et voilà, on est dans la pauvreté quand même aussi, du coup. Et elle va se battre, et elle va au final rentrer dans une espèce de pensionnat pour filles, justement, qui sont soit abandonnées, soit qui sont sorties de situations comme ça un peu compliquées. Et elle va devenir une championne de kung-fu. Et elle va sauver comme ça sa famille. Elle va sauver des amis à elle, parce qu'en fait, elle va se battre pour que ses amis qui sont aussi enlevés ou qui vont aussi être mariés au bananier ne le soient pas. Et lors d'un voyage en Amérique, lors d'un échange pour justement un grand championnat de kung-fu, c'est grâce à elle qu'il démantèle en fait tout un réseau de trafic d'êtres humains qui viennent du Népal et d'Inde, parce que du coup, elle a fait des liens en connaissant les jeunes filles que n'avaient pas pu faire les adultes, et au final, elle se dénoue. Donc en gros, c'est vraiment le plaidoyer pour oui, on peut sauver des vies, oui, on peut se battre pour faire changer les choses. Et effectivement, son quartier qui s'appelait avant donc Bazaar Girl, vraiment parce que c'était un truc, à la fin, donc il y avait, je sais plus, peut-être 30 maisons où du coup il y avait les hommes attendaient devant la porte le client, faisaient payer, et derrière il y avait la fille aînée qui attendait, et ben là après ça se transforme en un quartier où il en reste peut-être que deux, et après les autres ont réussi à ouvrir des petites échoppes, des magasins d'épices, des petites choses comme ça, et c'est grâce à elle que ça a bougé, pas que, parce que bien sûr elle est aidée par des personnes justement qui montent des centres d'aide, qui essayent de faire bouger les choses. Et donc voilà, c'est aussi le plaidoyer pour ça. C'est-à-dire que c'était pour aussi faire bouger les choses.
Voilà. Et cette petite fille qui a sauvé tant d'autres jeunes filles, c'est également en fait rien de moins que l'autrice, Ruchira Gupta.
C'est une histoire vraie.
Voilà, qui est en fait une activiste indo-américaine. Et lorsqu'elle était journaliste, elle a tourné un documentaire sur le trafic des petites filles indiennes, The Selling of Innocent, qui a été récompensé par un Emmy Award. Et à ce moment-là, elle a pris la décision de quitter son travail et de monter une ONG qui s'appelle APNAP, avec lequel elle a créé un centre communautaire en Inde pour aider les filles en danger et les victimes de trafic. Et depuis, donc, elle aurait sauvé environ 20 000 jeunes filles, aidé à l'arrestation de 64 trafiquants, fait voter par les Nations Unies un nouveau protocole d'aide aux victimes et de traque des prédateurs, témoigné devant le Parlement indien dans le cadre du vote d'un budget pour aider les populations à risque. Et en fait, son roman, il s'inspire de toutes ces histoires qu'elle a... Il est le prolongement de son combat.
C'est ça. Sa cousine, sa mère, son père, enfin, c'est vraiment... C'est eux. Bon, voilà. C'est... Quand on le sait après, on a encore plus les poils quand on lit le livre, quoi. Et effectivement, il est pour les ados. Mais ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon, c'est un peu cru, mais il rentre pas dans les détails, quand même. Enfin, voilà, c'est... Mais c'est une réalité. Les castes en Inde, ça existe toujours. Il y en a qui sont encore plus écrasés que les autres. Et puis même, j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de descriptions de l'Inde, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils vivent, des danses. Vraiment, c'est très joli sur ça.
C'est une découverte du pays aussi pour les ados.
Et même elle, c'est ce qui est touchant, c'est elle, ses premières découvertes aussi de l'autre nourriture. C'est-à-dire qu'elle ne connaît que les plats qu'elle fait, ou qu'après, grâce justement à... En étant dans le centre, elle mange un peu mieux, etc. Et en fait, elle va en Amérique, elle découvre pour la première fois comment on se sert d'une fourchette. Elle découvre pour la première fois certains plats. Et c'est très touchant de se dire, voilà, je connaissais pas, mais je vais apprendre. Elle a sa correspondante en Amérique qui, du coup, lui apprend des choses déjà, et elle aussi. Et en fait, on voit tout cet échange de culture, et c'est beau aussi, quoi. Voilà. C'est pas... le décor planté est rude. L'histoire est rude, mais c'est... Voilà, on peut. Il y a vraiment un message derrière, quoi. Et voilà, et de savoir que c'est une histoire vraie, c'est encore plus touchant.
Mais oui. C'est très dur. Enfin, ça reste positif, mais très dur. Ouais.
Mais j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment super.
Ok, merci beaucoup, Marlène Latresse. Tiens, Laetitia Colombani, c'est pas très indien, tout ça, chère Clarisse.
Pas très indien. Bah, c'est d'ailleurs une autrice et réalisatrice française qui vient de je sais plus où, Bordeaux, il me semble.
Non, de... je ne sais pas. Elle a fait sa classe prépa à Nantes.
Calcutta-sur-Loire. Hein.
Et d'ailleurs, oui, dans les longs métrages, elle est connue. Elle a écrit et réalisé des courts métrages et deux longs métrages, notamment À la folie, pas du tout, en 2002, avec Audrey Tautou, Samuel Le Bihan et Isabelle Carré, qui a eu le prix cependant junior du meilleur scénario. Mes stars et moi, avec Kad Merad et Catherine Deneuve. Donc, c'est quand même pas mal, ouais.
Oui, et du coup.
La Tresse.
La Tresse, qui est sortie fin 2023, je crois.
Qui est un film sorti en 2023. Ouais.
Et du coup, pour l'histoire... Alors moi, j'ai pas vu le film, mais c'est justement grâce au film que moi, j'ai connu cette histoire. Et puis ma mère me dit, oh, il est génial, regarde, achète-le en livre, toi qui préfères lire, etc. Donc je l'ai acheté, je l'ai écouté. Et c'est vrai que j'ai pas du tout été déçue. L'histoire était aussi super belle. Donc pour vous faire un petit résumé, en fait, on a l'histoire de trois femmes. Smita, qui vit en Inde... qui est complètement défavorisée. D'ailleurs, en fait, son métier, c'est de ramasser les excréments des gens, d'aller de maison en maison sans avoir réellement de salaire. C'est-à-dire que tout dépend de ce que les gens veulent lui donner. Donc, parfois, c'est la nourriture. Des fois, ils lui jettent quelques pièces comme ça. Enfin, leur avenir est très incertain jusqu'au jour où elle décide en fait qu'elle veut pas ça pour sa fille, qu'elle veut que sa fille aille à l'école. Donc elle économise, etc., pour pouvoir inscrire sa fille à l'école. Ça se passe pas bien du tout, parce que justement, à l'école, ils savent de quel milieu elle est issue, et donc voilà. Et donc en fait, elle décide tout simplement de s'enfuir avec sa fille pour essayer d'aller retrouver de la famille dans une plus grande ville, et où elle sait où l'avenir de sa fille pourrait être assuré. Je raconte pas ce qui se passe en chemin, parce que voilà, c'est aussi ce qui rend l'histoire plus belle, mais voilà pour ce personnage-là. Ensuite, on a Sarah, qui est, elle, au Canada. C'est une avocate très réputée. Et en fait, sa vie va basculer du jour au lendemain. Elle va être atteinte d'un cancer. Et donc, sa popularité, disons, va vite redescendre, parce que justement, elle est malade, donc les gens se disent déjà... voilà, c'est fini, quoi. Donc elle se retrouve à être exclue, alors que jusque-là, elle avait tout sacrifié pour sa carrière, même sa vie de famille. Hein. D'ailleurs, elle voyait presque pas ses enfants. Enfin, c'était vraiment un quotidien à 100 à l'heure pour elle. Et en dernier, on a Julia, du coup, qui vit en Sicile et qui travaille à l'atelier de son père, qui fabrique des perruques. Jusqu'au moment où son père en fait va se retrouver hospitalisé, il sera carrément inconscient, donc ça sera vraiment à elle de reprendre les rênes du truc et essayer de faire perdurer l'entreprise familiale. Et en fait, au fil de l'histoire, parce qu'on alterne les chapitres, un coup c'est un chapitre en Inde, puis après au Canada, puis après en Sicile. Et en fait, au dénouement de l'histoire, on se rend compte que finalement le destin de ces trois femmes sont liés. Et c'est ce qui rend l'histoire encore plus belle, parce qu'on se dit, quel que soit notre milieu social, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il se peut qu'en fait quelqu'un ait besoin de nous derrière, et sans qu'on le sache, on peut être lié à une personne. En fait, moi, c'est ça que j'ai trouvé super beau dans cette histoire. Donc c'est vraiment il est très court, en plus il se lit hyper vite, la plume est très très fluide, donc c'est vraiment chouette. Et du coup, grâce à Marlène, j'ai appris tout à l'heure qu'il l'avait adapté en
album jeunesse.
Parce que je m'étais pas forcément renseignée sur la question, j'aurais pu,
et,
mais...
Et la Tresse,
voilà. Et donc il y a la Tresse, mais il y a aussi du coup la suite, le nouveau.
La Tresse, c'est le même format, ouais. C'est la même couleur.
Voilà. La couette, la suite.
Je dois l'avoir à
et en fait, la suite du coup, c'est Le Cerf-Volant ou L'École de Lalita. Et donc, c'est un très bel album, très coloré, où on retrouve vraiment... c'est très représentatif de l'Inde, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les couleurs, tout ça, c'est...
Gros succès, hein, La Tresse, 2 millions d'exemplaires.
Le Voyage de Lalita, La Tresse, un jeunesse de...
Oui, c'est ça, c'est La Tresse ou Le Voyage de Lalita.
Ouais, très très joli. Hein.
Par Clémence Paulet, illustré par Clémence Paulet, qui est paru en 2018 quand même. Et La Tresse a été aussi adaptée au théâtre... en France, en Espagne, en Italie. Voilà.
Et on finit sur une jolie note, là.
Ouais.
Sur La Tresse et Le Cerf-Volant, c'est
mais
joli.
Mais non, mais on avait parlé d'une autrice au début, là, de Laurence Gillot. On n'en parle pas de Laurence Gillot.
Tu me regardes et ça m'inquiète.
Mais je ne sais pas qui... Il y en a une de vous qui m'a dit
c'est
Laurence Gillot.
C'est peut-être toi, en fait. Tu nous caches cette information.
Harry et Indira, Laurence Gillot et Sophie Rohrbach.
Ah non, mais c'était une proposition pour toi.
C'est la jeunesse, hein.
Ah,
c'est,
mais
oui, c'est la jeunesse.
J'ai le chercher, j'ai les là-bas.
Je l'ai lu, celui-là, je me suis dit, bah, je l'amène pas, puisqu'ils vont parler.
Non, mais je lis. Alors moi, je l'ai pas lu. Non, c'est une sélection pour toi, Ludovic.
Ah bon.
Je te le proposais, en fait, parce que j'avais fait une super sélection. Parce que. Alors, je suis vilaine, mais j'avais de la romance. J'avais le club des veuves qui aimait la littérature érotique de Balil Grimus, quoi.
Et alors, tu pouvais pas le donner à Clarisse?
J'avais de l'humour.
C'est totalement son style.
J'avais de l'humour avec le rire des déesses d'Ananda Devi.
Ouais, celui-là, il est rigolo, ouais.
J'en avais un pour Pauline, pour qu'elle mette dans son CDI, de l'autre côté du pont, de Padma Venkatarama, qui est génial.
Mmh, aussi, ouais.
Voilà. Et non, lui en fait, c'est que vous aviez déjà choisi ce que vous vouliez dire, donc je me suis retrouvée avec tous ces livres qui arrivaient pour l'émission. Et je me suis dit, tiens, Ludo, peut-être un livre jeunesse, non, je t'avais proposé
d'accord,
de le lire.
D'accord, je n'ai pas compris, alors, autant
mais je n'avais
pour
peut-être
moi.
Pas dit, est-ce que tu veux lire ça?
Oui, non, c'était voilà. Pas très.
Non, je l'ai même pas ouvert, ce livre jeunesse.
Okay. Oui, Marlène l'a lu, ça avait l'air sympa, alors, ça avait l'air joli.
Je l'ai vite feuilleté. Parce qu'en fait, c'est pas, j'ai fait un peu comme toi. Je suis allée, du coup, chez la libraire jeunesse.
Mais si elle l'avait, c'est qu'elle a bon goût.
Voilà, et en fait, je lui ai dit, sur l'Inde, un peu tout ce qu'on peut trouver, et elle a joué le jeu parce qu'elle était pas au courant. Et en 15 minutes, pareil, elle m'a sorti plein de références. Mmh. Elle m'a même sorti des CD avec de la musique, des comptines indiennes et tout.
Ah, oui,
trop
oui,
bien. Et du coup, je me suis dit, c'est super, quoi, en fait. Et bon, j'ai pas tout ramené parce qu'elle m'a fait une jolie sélection, mais j'adore, quoi. Et ouais. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire un petit. À la médiathèque, là, on allait faire un petit focus sur l'Inde pour faire suite à l'émission, quoi.
Ah, ça, c'est bien. Voilà. Super.
Tu peux aussi proposer les ministères des sentiments
si
blessés.
Voilà.
si tu veux.
Donc la romance en Inde, ça existe, Clarisse.
Voilà.
Et on peut le proposer avant.
Tu lui as filé Salman Rushdie.
Oui, mais alors c'était pour ma
non,
défense,
mais j'ai bien compris que tu m'en voulais.
C'était avant.
Tu peux proposer aussi une conférence de Clarisse, Salman et moi. Ben, merci beaucoup. C'était la dernière émission de la saison, déjà.
On fait pas nos livres qu'on a envie de lire cet été?
Non. Pas cette année.
D'accord.
Je n'ai pas le temps.
On fera les livres qu'on a lus cet été.
C'est ça. Et d'ailleurs, cet été, les livres sur le zinc seront rediffusés le lundi à 19h et le mercredi à 12h30 dès la première semaine de juillet. Une semaine, une émission. Boum. Et chaque semaine, on change tout l'été pour arriver jusqu'en septembre. Où là, bim, comeback. Ok.
Super.
Donc, on choisit le thème de septembre ou pas?
On se le laisse. Non, oui, à moins que vous ayez des idées, mais non.
Et la wildcard, qui c'est qui l'a?
C'est Marlène qui a la wildcard pour la rentrée. Allez, ok.
C'est de chance.
Ouais, en plus, elle a tout l'été pour choisir vraiment ce qu'elle va.
Tu sais qu'on n'a jamais pas.
Ouais, d'abord que je sache quel est le thème pour pouvoir bien faire l'antithème.
C'est ça.
On n'a jamais vraiment parlé de Joël Batz, gardien de la vie, édition illustrée 1984.
Je te promets, je ne sors pas du foot ni des JO. Hein.
Tu attends. Non, c'est bon, il y en a, je suis d'accord avec toi. Allez. Et merci beaucoup et lisez pendant cet été, n'hésitez pas, hein, et comme dirait l'autre,
au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.